Et welcome back sur Onde Noire.
Deuxième partie. Et voilà, là, je vais vous parler carrément un coup de cœur, mais moi, je dis carrément, attention, chef-d'œuvre. Ça s'appelle Serena. C'est paru aux éditions du Masque très très récemment, ces jours-ci. C'est d'un écrivain dont on vous avait déjà parlé, on avait adoré son premier livre, aux mêmes éditions d'ailleurs. Cet écrivain s'appelle Ron Rash. Et ce roman est traduit par Béatrice Vierne. Comme je le disais, chef d'œuvre, c'est une perle, comme il nous en arrive parfois, faut bien dire de plus en plus rarement, du fin fond des États-Unis. Et plus précisément, de Caroline du Nord, où Ron Rash, l'écrivain, est aussi professeur d'université. Il nous entraîne dans les Smoky Mountains, à la fin des années 20, évidemment, hein, crise de 29, en pleine récession économique. Début du roman, début de l'histoire. John Pemberton, riche exploitant forestier, vient d'épouser Serena et rentre la présenter à ses amis et ouvriers. D'ailleurs, ouvriers, on pourrait peut-être aussi parler d'esclaves. Il a oublié, en rencontrant Serena et en l'épousant, qu'il avait engrossé la fille d'un de ses contremaîtres, Harmon, qui l'attend de pied ferme sur le quai de la gare. Une bagarre s'engage, Pemberton tue Harmon. Et là, le ton est donné. Et si l'intensité dramatique et la violence vont monter en puissance tout au long du récit, tout est là, en fait. Cette scène, on a l'histoire, les hommes, aussi bien les personnages principaux que les simples témoins de l'histoire que va nous raconter vraiment magistralement Ron Rash, qui respectent tout à la fois les codes du roman noir et du drame antique. Alors, il y a l'histoire, qui est très, très intéressante, mais le pivot... Le personnage principal, l'héroïne, Serena. Serena, au nom si angélique, c'est en fait une diablesse passionnée. Une espèce, je parlais de drame antique, une espèce de Lady Macbeth, bien encore une Médée, prête à tout pour le pouvoir, pour tous les pouvoirs. Elle est tout à la fois haïe, mais aussi admirée, crainte, mais un peu admirée aussi par ses pairs et puis par ses ouvriers. Alors, les ouvriers, les fameux esclaves dont je parlais tout à l'heure, ils sont tout à fait médusés parce qu'ils la voient apprivoiser un aigle qui va tuer les crotales qui sont très dangereux pour eux. Mais c'est pas par bonté d'âme de sa part, hein, c'est tout simplement que si un crotale mord un de ses ouvriers, oh, c'est embêtant, faut l'enterrer, faut trouver un autre ouvrier. Bon, elle, ce qu'elle veut, c'est rentabilité au maximum, ça nous rappelle des trucs. Et
pourtant, on est dans les années 20.
Là, on est dans les années 20, mais on a l'impression d'être dans le fondement de l'Amérique d'aujourd'hui. Ce que Serena veut, c'est perdre le moins de fric possible. Elle est passionnée, passionnante. Elle balaye tout sur son passage pour obtenir ce qu'elle veut. Le pouvoir absolu, et par les armes qu'elle sait utiliser. Trois armes, l'argent, la violence, le sexe. Autre personnage, donc j'ai parlé de John Pemberton et ses congénères. Tellement réac qu'ils imaginent que Webb et Rockefeller, c'est bolchévique et compagnie. Donc vous pouvez imaginer, Rockefeller en bolchévique, ils sont étonnants ces gens-là. Tellement cyniques qu'ils se réjouissent de la grande crise qui leur fournit une main-d'œuvre toujours renouvelée et à très bon marché. Quand un type est tué ou quand un type est blessé, ben, de toute façon, il y en a 10 qui attendent pour gagner 3 sous, pour ne pas crever de faim. Ces ouvriers, pauvres ombres, pauvres esclaves, qui triment jusqu'à la mort pour en fait que la gloire et la richesse de leur patron. C'est dans ces passages-là qu'on va retrouver les grandes tragédies et un grand roman social. Ces bûcherons qui tombent, estropiés, morts, et qui sont qu'une machine de plus en fait dans l'entreprise. À qui on octroie, allez, une messe de Noël. Mais c'est surtout parce que les patrons savent que le prêtre est de leur côté et va pouvoir parler gentiment à leurs ouvriers en essayant d'échapper à toute révolte. Et autour de ces drames intimes, l'histoire avance. On assiste aussi à une très belle histoire avec un grand H dans les petites histoires. C'est ce combat des propriétaires forestiers contre le projet d'un des premiers parcs nationaux qui va les priver de ce qui les enrichit sans cesse. Et eux, comme de toute façon, ce qu'ils veulent, c'est l'argent. Bah, les grands parcs nationaux, ils n'en ont vraiment rien à fiche et ils vont se battre pour que ça n'existe pas. Ron Rash, cet écrivain américain, il a vraiment, vraiment beaucoup de talent, pour décrire aussi bien la rugosité des Appalachies que celle des êtres humains. Et il y a un écho fantastique entre la dureté de cette nature déloyale, parce qu'à la fois sublime et mortelle, et il superpose un portrait tout en nuances d'une femme tout aussi impitoyable que belle. Donc on a à la fois dans ce roman un portrait macroscopique de la société américaine des années 30, début du capitalisme ravageur, et portrait microscopique, je dirais à l'échelle de l'humain, de quelques personnages pris dans cette tourmente, à commencer par Serena, parce que quelque part, en tant que femme, il y a aussi un côté un peu victime quand même de cette société absolument machiste. Et elle veut s'en sortir par des moyens qui sont à blâmer et qui sont abominables, mais s'il y a aussi ça. Et d'ailleurs, on sent bien que Ron Rash ne peut s'empêcher d'avoir quelque admiration, peut-être un peu amoureuse d'ailleurs, pour ce personnage de Serena qui porte, je l'ai déjà dit, si mal ou si bien son prénom. Personnage monstrueux et sublime à la fois, prête à tout pour parvenir à ses fins. Et c'est aussi une femme amoureuse qui ira jusqu'au bout de sa passion. Voilà, ça s'appelle Serena, tout simplement, Ron Rash aux éditions du Masque, hautement recommandable. Voilà, pour 20 euros, vous avez un très très beau roman, comme les Américains savent parfois nous en apporter. Un petit morceau de musique qui va être en écho d'ailleurs avec les immensités de la Caroline du Nord.
On était dans la Caroline du Nord. Voilà. On va mettre un morceau de John Fogerty. Le morceau, tout comme le disque, s'appelle Blue Ridge Mountain Blues. Et les Blue Ridge Mountains sont situés en Caroline du Nord, non loin des
Smoky Mountains.
Des Smoky Mountains.
C'était donc
John Fogerty and the Blue Ridge Mountain.
Voilà, eh bien,
et la chanson s'appelle Blue Ridge Mountain Blues.
Voilà, donc là, on revient en Europe pour deux romans dont tu vas nous parler, Jacques.
Voilà, donc il y a aussi la montagne ici, mais la montagne, c'est les Alpes italiennes. Le roman s'appelle La dernière nuit blanche, c'est un roman d'Alessandro Pellissinotto, qui est paru à la série noire de Gallimard et qui est traduit de l'italien par son traducteur habituel, Patrick Vigetti. Alors, ces nuits blanches, en fait, c'était des manifestations, disons, festives, organisées par la ville de Turin et par le comité olympique pendant les récents Jeux d'hiver de Turin, justement, donc en 2006. Et c'est donc dans cette ville de Turin que l'on va retrouver Anna Pavesi, la psy-détective que l'on avait découvert dans un précédent roman de Perissinotto qui s'appelait « Une petite histoire sordide ». Et au début du roman, elle a complètement abandonné son boulot de psy pour se consacrer à la recherche de personnes disparues, une espèce de détective. Elle en a profité aussi pour abandonner son mari qui l'a trompée abondamment. Enfin, quand je dis abandonnée, elle n'a pas abandonné au bord de l'autoroute, bien évidemment. C'est, disons, une séparation de corps et de biens. Et donc là, elle est amenée à revenir à Turin pour rechercher une jeune femme, une travailleuse sociale, qui œuvre, disons, dans le milieu de la réinsertion des drogués. Tout ça au beau milieu des faibles athlètes de toute nationalité en moon boot et en doudoune. Et donc là, Perissinotto va nous décrire deux facettes de sa ville. D'ailleurs, je ne suis pas bien sûr qu'il ait bien apprécié les JO à Turin, parce qu'il dit à un moment au début du roman, Turin n'était pas Disneyland et ne s'apprêtait pas à recevoir le pape. La ville semblait plutôt revenir aux 20 ans du fascisme et préparer la ville dite du Duce.
C'est oui, en effet, c'est...
Bon, quelques pages plus loin, il corrige légèrement son jugement, mais bon, c'est quand même un peu sévère.
De toute façon, c'est pas le premier roman à montrer les méfaits de l'organisation des JO dans des villes, qu'elles soient européennes ou exactement, n'importe où dans le monde.
Et alors là, donc, on va voir donc les deux côtés, je disais, les deux facettes de la ville, un peu, disons un peu caractéristiquement, le noir et le blanc, le côté lumière et le côté sombre. Le côté lumière, c'est le côté people, flashy, le blanc de la neige, les lumières de la télé, le sport business. Et le côté sombre, côté noir, c'est les bas-fonds, les drogués, les dealers, et aussi les gens qui essaient de lutter contre ces phénomènes. Ou, par contre, là, ici, la neige est blanche, mais elle n'est pas poudreuse. Ou poudreuse, mais ce n'est pas la même que sur la Selonski.
Je ne vois vraiment pas de quoi tu veux parler.
J'ai parlé les drogués tout à l'heure.
Ah.
Et donc, Anna, en fait, finalement, Anna Pavesi s'avère être une très, très bonne enquêtrice. Elle se révèle très efficace. Mais le plus du roman, en fait, c'est justement Anna, le personnage d'Anna, parce que les femmes détectives, finalement, ne sont pas si courantes. Et en plus, dans les mains, ou si j'ose dire, enfin, du moins, dans l'écriture d'un homme, c'est encore plus rare, une plume masculine qui décrit si bien un personnage de femme.
On a quand même un très bel exemple en Espagne avec Petra Delicado d'Alicia Jiménez Bartlett.
Oui, mais c'est une femme qui décrit une femme. Tandis que là, Perissinotto, il utilise sa plume pour décrire.
Oui, c'est vrai, j'allais te parler de Grazia Verrazzani, mais c'est aussi une femme.
Aussi, voilà. Et donc, je trouve que ce personnage créé par Alessandro Perissinotto est plutôt bien réussi. A priori, il y a une trilogie, donc on peut s'attendre à avoir un troisième roman.
Oui, puisque tu viens de parler du deuxième, donc nous pouvons penser qu'un troisième suivra.
Donc, je rappelle, La dernière nuit blanche de Alessandro Perissinotto, paru à la série noire de Gallimard.
Oui, avec une couverture, alors mon petit coup de gueule, hein, je trouve que... On a encore changé de maquette.
Oui, Gallimard.
Il n'y a même plus. La série noire, il n'y a même plus les majuscules, quand même, enfin.
Non, mais par contre, il n'y en avait pas. Mais par contre, il y a de la couleur.
Enfin, pas dans. Oui,
il y a un une grosse tache de neige. Et
voilà,
c'est quand même en sur fond noir, mais bon. Ça doit peut-être plus attirer l'œil du chaland dans les.
Oui, peut-être. Très bien. Librairies. En tout cas, il peut être attiré par la qualité du livre.
Ça, par contre, sans aucun problème.
On avait déjà parlé.
Comme quoi, Perissinotto s'avère être un.
Une valeur,
italien,
sûre,
hein. Une valeur sûre du roman noir, oui, parce que c'est ça, sous le comment dire, ça semble être une simple enquête, mais non, la façon dont elle décrit le milieu des drogués, tout ça, et bien sûr le contraste avec tous ces gens qui traînent dans la ville, qui font la fête, qui comprennent rien, c'est assez.
On peut rappeler quand même qu'on avait eu un grand enthousiasme pour un des premiers séries noires, le premier série noire, me semble-t-il, d'Alessandro Perissinotto, qui s'appelait «
À mon juge », oui,
qui était le premier roman e-épistolaire, puisque c'était uniquement un échange de mails, d'ailleurs en hommage à un titre pratiquement éponyme de Simenon, qui s'appelait « Lettre à mon juge ».
Exactement.
On arrive en France ?
On arrive en France.
Avec un vieux roman, on va dire.
Une réédition d'un roman donc de Jean-Hugues Opel. Le roman s'appelle Barjot. Donc, il était initialement paru à la série noire en 1940. 88, donc c'est pas tout neuf.
Ils n'ont pas de téléphone portable dans les...
Non, il était pas inédit, mais introuvable depuis un petit moment. Et donc là, ben, les éditions Rivage ont eu la bonne idée de le rééditer. J'ai dit, ça s'appelait Barjot. Et donc, le Barjot en question, eh ben, c'est un monsieur qui s'appelle Étienne Dieudonné Salgan. C'est un chef d'entreprise plutôt prospère, pas vraiment fufute.
Et pas très sympathique.
Et pas très sympathique. Je vous lis la présentation qu'en fait Jean-Hugues Opel. Salgan aime les grosses voitures. Salgan peut se le permettre, il gagne royalement sa vie. Salgan est heureux en ménage. Salgan est fier de ses enfants. Salgan trompe sa femme avec sa secrétaire, ses employés, les épouses des clients, des putes quand personne n'est disponible. Salgan adore Véronique Salgan. Salgan a payé sa maison comptant. Salgan est content. Salgan est béat. Chaque matin devant son miroir, le rasoir à la main, il se trouve une bonne gueule et s'estime satisfait de son sort. Il va une fois par semaine au cinéma, une fois par trimestre au théâtre avec des billets de faveur. Il regarde vaguement à la télévision, lit peu en dehors des journaux financiers et sportifs. Sa culture s'arrête à Picasso, Beethoven, Sartre, les Beatles et John Fitzgerald Kennedy, Dallas 1963.
Ah, on en a vu quand même du plus pire au niveau culturel.
On en a vu des plus pires, mais bon,
ça le classe quand même dans une catégorie de bof assez...
Voilà, ben, la phrase suivante. Jean Dieudonné Salgan est un imbécile heureux, pas plus stupide qu'un autre, ni plus méchant. Il est fade, transparent, banal, typique, sans intérêt.
Voilà, le bof des années 80.
Voilà, mais bon, ce bof, eh ben, il va devenir Barjot, comme le nom du roman l'indique, complètement... fou, il va péter les plombs, et il faut dire qu'il a quand même toutes les raisons, malgré son crétinisme moyen, il a toutes les raisons de péter les plombs, parce qu'un jour qu'il pensait rentrer du boulot et retrouver sa famille et un couple d'amis réunis pour une soirée sympa, il trouve sa maison entièrement brûlée, avec tout et tous ceux qui étaient dedans. Alors un petit coma, un petit séjour à un hôpital psychiatrique, et quand il en sort, eh ben, il va décider de se venger. Et comme il a un petit peu, disons, la chance des amateurs, des innocents.
Des débutants d'assassins.
Eh bien, il va réussir pratiquement ou presque. Non, tu le disais, c'est un très court roman, ça fait 200 pages. C'est le premier roman que Jean-Hugues Opel avait écrit en solo, juste après son Canine et Gun qu'il avait écrit avec un collègue. Et on y trouve déjà tout ce qu'on aime dans les romans de Jean-Hugues Opel, cette écriture jubilatoire, les clins d'œil au lecteur. Après avoir décrit la tablée familiale qui attend le retour de l'homme, on a le laconique. Ils ont encore 14 minutes d'existence devant eux. Et puis, il y a les services secrets, les officines parallèles. Le lecteur, même avisé, pourra penser au Langelot, ou sa lecture de Langelot de son adolescence. Puis il y a aussi les thèmes favoris de Jean-Hugues Opel, la manipulation des médias, par l'État ou par les mêmes services secrets. Il aurait pu mettre en exergue de son roman ces deux vers de La Fontaine, selon que vous soyez puissant ou misérable, les juments de cour vous rendront blanc ou noir, mais en fait, on pourrait le mettre dans tellement plein de romans noirs que...
C'est évident. Et puis de toute façon, la narration et l'histoire le laissent voir tout à fait.
Bref, Opel en fait, nous raconte une sale histoire, des meurtres politiques, de la vengeance, des scènes de violence que Tarantino ou son pote Robert Rodriguez ne renierait certainement pas, mais c'est emballé dans une écriture qui est plaisante. Il détourne tous les clichés, les situations, et finalement, on se prend à se régaler à lire ça, alors qu'on devrait être plutôt terriblement inquiet de ce qu'il nous raconte, parce que les manipulations comme ça existe. En fait, ce premier roman était un prémisse à des romans qui paraîtront plus tard, et qui sont en fait du coup déjà parus, puisque celui-là date de 88. Dont on peut citer Carthago,
French Tabloïd,
Chaton Trilogie, donc pour la vengeance, les meurtres, ça, et French Tabloïd pour la manipulation des médias.
Et le dernier, d'ailleurs, Réveiller le Président,
qui se rapproche beaucoup de celui-là dans l'espèce d'écriture un peu...
Jubilatoire, oui, fun. C'est vraiment un des grands talents de Jean-Hugues Opel, entre autres que de nous réussir des histoires bien tournées, bien ficelées, d'avoir beaucoup d'imagination, d'arriver d'avancer à un rythme d'enfer, et de nous raconter des choses sordides, je dirais avec une plume alerte et légère.
On rit jamais, vraiment à gorge déployée, mais c'est cool, c'est marrant à lire, sympa, et en même temps un tout petit peu.
C'est très inquiétant. De Jean Hugo Bell a tendance quand même, au fur et à mesure que l'on lit ses livres, à nous rendre quand même un petit peu paranoïaque et à écouter les informations ou à lire quelques pages de journaux
finalement,
d'un œil un peu inquiet.
Finalement, il est plutôt loin du compte, en fait. Quand on
oui, il est plutôt loin du compte, mais dans le mauvais sens du
exactement terme.
Bon, on va essayer de ne pas vous inquiéter. Allez, à la prochaine pour d'autres bons bouquins.
Au revoir.